Le Cléo, centre pour l'édition électronique ouverte, organise du 7 au 15 septembre sur le campus Saint-Charles et à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, ainsi qu'à la MMSH à Aix, un cycle de conférences publiques sur l'avenir du livre. La Grenouille est allée rencontrer Marin Dacos, directeur du Cléo, qui organise cet événement, et Philippe Aigrin, qui anime une conférence mardi 8 septembre sur le campus Saint-Charles à 18h. Marin Dacos, bonjour. D'abord, pouvez-vous nous dire quelles sont les missions du Cléo ?
Alors, le Centre pour l'édition électronique ouverte, le Cléo, est une unité de plusieurs établissements dont le CNRS, l'Université de Provence et le HESS qui fait de l'édition électronique scientifique. Donc, en fait, on met en ligne plus de 200 revues, des blogs de chercheurs sur la plateforme Hypothèse, les revues sur revues.org et un calendrier scientifique qui s'appelle Calenda et qui a plus de 10 000 événements scientifiques publiés. L'originalité de ce laboratoire par rapport aux plateformes qui existent dans le monde d'édition électronique, c'est qu'il s'appuie sur le modèle d'appropriation, c'est-à-dire que nous formons les éditeurs, les revues, les blogueurs, les chercheurs à l'édition électronique pour qu'ils puissent avoir la main sur leur édition électronique, pour qu'ils puissent faire partie du jeu plutôt que d'utiliser le laboratoire comme un prestataire de service anonyme. Donc en fait, ils sont impliqués avec nous dans l'invention de l'édition électronique.
Et en quelques mots, qu'est-ce que l'édition électronique ?
Alors l'édition électronique, c'est la version en ligne de l'édition. C'est éditer des textes en ligne par opposition à l'édition des textes sous la forme papier traditionnelle. Il y a des gens qui pensent qu'on oppose les deux mondes et d'autres qui pensent que c'est le monde papier et le monde électronique. On peut mettre en place des synergies, des complémentarités, des liens dans les deux sens, du papier vers l'électronique. C'est plutôt la phase actuelle, on est en phase de numérisation, mais à terme aussi d'électronique vers le papier, puisqu'en fait il y a toute une conversation scientifique qui a lieu en ligne, qui peut nourrir des livres aussi. Donc voilà, l'édition électronique, c'est surtout quelque chose qui est en mouvement et qui est en train de s'inventer.
Et plus précisément, quelles sont les transformations que doit opérer le livre pour passer dans l'ère du numérique ?
Alors déjà, je ne sais pas si on peut parler du livre, parce que en fait, est-ce qu'on va conserver les livres en ligne ? C'est la première des questions. Donc on n'est pas certain que le livre continuera à exister dans 50 ans, sous sa forme actuelle, transposé en ligne. On ne sait pas. Peut-être que ça va continuer à exister, peut-être que ça va prendre tellement de forme, ça va être tellement muté qu'on ne pourra plus parler du livre. Donc nous, on préfère parler du texte. Mais les mutations qui sont en cours, c'est surtout une fragmentation. Et d'autre part, on entre aussi dans l'ère de la conversation, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le livre était un objet quasiment sacré et vous faisiez une annotation sur votre papier et vous la conserviez pour vous, sur votre exemplaire. La différence avec le numérique, c'est que vous avez l'opportunité de faire cette annotation en ligne, et si vous le souhaitez, de la rendre publique. L'auteur peut commencer à parler et à écrire son livre, à l'écrire en ligne, publiquement, s'il le souhaite, bien entendu. Et donc là, on est tout de suite dans la conversation avec un lectorat particulier, évidemment, pas le grand public, mais les gens que ça intéresse peuvent contribuer par des débats, des commentaires, des annotations, des réflexions, à l'écriture même, au bouillonnement intellectuel qui préside à l'écriture. Jusqu'à présent, c'était dans l'intimité du réseau de proches de l'auteur. Maintenant, c'est potentiellement à une échelle mondiale. Ça ne veut pas dire que les méthodes traditionnelles perdent de leur valeur, mais en revanche, il y a des nouvelles méthodes qui peuvent apparaître et du coup, on peut mettre en œuvre ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et là, évidemment, l'acmé de ça, c'est Wikipédia où vous allez jusqu'à écrire le texte.
Philippe Aigrin, bonjour. Votre conférence porte sur le droit d'auteur au défi du numérique. Pouvez-vous nous dire en quoi l'édition électronique change la donne par rapport aux modalités traditionnelles de l'édition papier ?
À vrai dire, ce qui change la donne, ce n'est pas directement une forme d'édition, c'est c'est une modification beaucoup plus vaste qui est introduite par les technologies numériques, l'informatique et les réseaux en général. Donc, on a tout un environnement qui change. À l'intérieur de ça, évidemment, la donne change en particulier pour le rôle des acteurs éditoriaux d'une façon qui est très enthousiasmante sur le plan de l'accessibilité, mais qui soulève un certain nombre de questions sur le plan de la soutenabilité économique de leur activité, ou même du point de savoir qui doit être un acteur éditorial dans la nouvelle situation.
Alors, bien sûr, on a tous à l'esprit les débats houleux qui ont accompagné le projet de loi Hadopi. Selon vous, est-ce que le développement de l'édition électronique induit une réflexion plus globale sur la notion de propriété intellectuelle, d'appropriation du savoir et enfin d'accès à l'information ?
Alors, est-ce qu'il faut revoir à l'ère du numérique la définition et les modalités de mise en œuvre du droit d'auteur ? Alors, la définition, je n'en suis pas sûr, sauf au sens où le droit d'auteur, qui autrefois était quelque chose qui réglementait les relations entre des acteurs économiques, que ce soit des producteurs de contenu ou des distributeurs de contenu, est devenu quelque chose qui réglemente les actions du public. Et la réglementation des actions du public pose des nombreux problèmes, des problèmes de liberté, des problèmes de diversité culturelle. Je pense qu'à l'heure du numérique, il faut une redéfinition du droit d'auteur, mais cette redéfinition, c'est plutôt une certaine forme de retour aux sources, c'est-à-dire de reconnaissance qu'on a besoin d'une sphère de liberté, d'échange hors du marché entre personnes pour que se diffusent les connaissances et la culture, mais que, bien entendu, l'existence d'une sphère de liberté n'est pas contradictoire avec des activités économiques et n'est pas non plus contradictoire avec une contribution des individus, des citoyens, au financement de l'existence même de la création ou simplement des productions intellectuelles en général.
Dans le prolongement de votre réponse, que pensez-vous du Google Search Books, donc c'est-à-dire la numérisation entreprise par Google de 15 millions de livres d'ici 2014?
Le fait que nous ayons un acteur qui acquiert une position monopolistique dans la possibilité d'accéder aux œuvres numérisées, qui plus est, passe des accords propriétaires avec des acteurs de diffusion sur des appareils comme des livres électroniques, par exemple l'accord passé par Google et Sony, conduisent, dans certains cas, portent, y compris sur les livres de domaine public. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des livres de domaine public qui vont faire l'objet d'un accord de diffusion exclusive sur un livre électronique particulier pour ceux qui auront été numérisés par Google. Google s'enfonce dans un échec des politiques de numérisation à financement public. Et du coup, donc, la question, c'est comment pouvons-nous garder les bénéfices de l'accessibilité, y compris celles par les moteurs de recherche, sans pour autant courir le risque d'une monopolisation de l'accès à la culture par un acteur dont les intérêts finaux sont ceux sont ceux du profit, bien entendu, et dans le cas de Google, le profit, c'est accaparer le maximum d'attention pour générer des revenus publicitaires, et si c'est pas l'attention, c'est capturer le maximum de données personnelles des individus pour pouvoir les commercialiser aux personnes qui sont intéressées à les connaître, peut-être pas individuellement, mais au moins collectivement.
Philippe Aigrin, merci. Je rajoute que vous ne pourrez pas assurer votre conférence mardi à 18h. Ce sera donc Marin Dacos, que nous avons déjà interviewé, qui vous remplacera avec brio, nous l'espérons. Merci.
Au revoir.
La Grenouille vous invite, du 7 au 15 septembre, à participer au cycle de conférences publiques sur l'avenir du livre. Du lundi au jeudi à 18h au campus Saint-Charles, le vendredi 11 à 18h à la bibliothèque de l'Alcazar et le mardi 15 à la MMSH à Aix-en-Provence. Pour plus d'infos, à vos claviers, leo.hypothèse au pluriel.org. À bientôt.